L'emprise mentale ou psychique, la soumission à un manipulateur ou à un gourou. Pendant longtemps, cela a suscité chez moi incompréhension et incrédulité. Comment peut-on devenir la chose d'autrui, ne plus avoir la force de réagir, de résister à la manipulation ? La plupart du temps, les victimes de manipulation mentale ne se rendent absolument compte de rien. Comme si elles acceptaient leur sort, jusqu'au jour où le déclic se produit. Toujours tard, souvent trop tard, car le mal est déjà fait. Comment les manipulateurs agissent-ils ? En quoi consiste leur force ? Et comment les victimes réussissent-elles parfois à s'en sortir ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Ghislaine. La vie de cette femme et de sa famille a basculé après sa rencontre avec un homme prétendument serviable et empathique. En réalité, il est un dangereux manipulateur. Je suis Olivier Delacroix, soyez les bienvenus dans le podcast Dans les yeux d'Olivier.
Pendant 10 ans, 11 membres de cette famille, la grand-mère, 3 de ses enfants et leur conjoint, ainsi que 5 petits-enfants, ont vécu littéralement coupés du monde, dans 3 lieux différents. D'abord en France, à Montflanquin, au château de Martel, puis à Tallade, et ensuite en Angleterre, à Oxford. À l'époque, on évoquait une secte et la présence d'un gourou, mais personne en fait ne savait très bien ce qu'il se passait chez les Védrines. Enfin, 2009, le mystère de Montflanquin se dissipe. Les Védrines, les uns après les autres, réalisent qu'ils ont été victimes d'un redoutable manipulateur, un certain Thierry Tilly. Cet homme a été condamné en appel à 10 ans de réclusion, la peine maximale, et reconnu coupable de vampirisation financière et morale à l'encontre de la famille Védrine. Pour tenter de comprendre cette emprise hallucinante, cette méthodique manipulation mentale qui s'est étalée sur une décennie entière, j'ai rencontré 6 des 11 reclus de Montflanquin. Tout d'abord Ghislaine. C'est une Védrine. Elle fut le premier maillon par lequel le manipulateur a infiltré la famille. Elle est mariée à Jean Marchand, journaliste économique à Paris. Ensuite, j'ai rencontré Charles-Henri de Védrine, le frère de Ghislaine. Il était gynécologue renommé à Bordeaux. Il est marié à Christine. Ils ont plusieurs enfants, dont Amaury qui lui aussi a accepté de me parler. Le dernier des reclus de Montflanquin que j'ai rencontré est Philippe de Védrine, le frère de Ghislaine et de Charles-Henri, c'est l'aîné de la fratrie. Lui est un ancien militaire, ingénieur dans le civil. Cette famille, installée ici dans le Lot-et-Garonne depuis des siècles, a toujours été ouverte aux autres. Mais tous ont un jour abandonné leur métier pour suivre celui qui les a maintenus sous sa coupe entre 1999 et 2009, le fameux Thierry Tilly. C'est lui qui a réussi à les isoler et à les enfermer, et finalement à les ruiner. Un butin estimé entre 4 et 5 millions d'euros, ce qui comprend bien évidemment le château de Martel à Montflanquin, propriété de la famille depuis plusieurs générations. Le premier contact avec Thierry Tilly a lieu dans un quartier chic de Paris, rue de Lille, dans le 7e arrondissement. À l'époque, ce bâtiment abrite une école privée de secrétariat où étudie Guillemette, la fille de Ghislaine et de Jean. L'école va mal, elle est en passe de fermer. Alors Ghislaine et quelques parents décident de la reprendre en main. Pour commencer, ils vont y faire des travaux de nettoyage. Celui qui sera chargé de les réaliser est un certain Thierry Tilly. C'est le point de départ de cette incroyable manipulation. Pour comprendre, j'ai rendez-vous chez Jean et Ghislaine en banlieue parisienne.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier contact avec Thierry Tilly ?
Aucun. C'est pas lui qui était derrière les machines pour nettoyer. C'était ses employés. Donc il passait en coup de vent, voir si le travail était fait, puis ça s'arrêtait là.
D'accord. À partir de quel moment on peut se dire qu'il rentre en contact avec vous de manière directe ?
C'est difficile à dire de façon précise. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que lorsqu'il y avait un problème à résoudre, que aucun d'entre nous n'était capable de résoudre, Vincent David nous disait, écoutez, bon, je vais en parler à Thierry Tilly, je pense qu'on va trouver une solution. Et ça a été comme ça pendant 18 mois, au moins. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des questions qu'on s'était posées auxquelles il nous semblait, parce qu'aujourd'hui je dis il nous semblait, à l'époque j'y croyais bien sûr, que c'était Thierry Tilly qui avait trouvé la solution. Donc Thierry Tilly devenait, à mes yeux, au travers de Vincent David, un homme fiable. Et puis un beau jour, je lui en avais probablement trop dit sur moi, et il a joué.
Il s'est engouffré.
Il s'est engouffré là-dedans, il a joué, et ça a été fini. Il est devenu indispensable dans toutes mes décisions.
Comment expliquez-vous être tombé
sous
l'emprise de cet homme?
C'est bien ça mon problème. C'est un homme extrêmement pervers. C'est la goutte d'eau chinoise. Quand par hasard vous avez envie de vous dire, mais non, sans lui je peux faire. Ah mais pourtant là, c'est grâce à lui que ça a fonctionné. Là, c'est grâce à lui. Là, si je lui demande pas, ça va pas fonctionner. Il y a un peu de superstition qui se mélange à cet état, si vous voulez, quand vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
C'est très.
Très insidieux.
C'est très insidieux.
Et c'est là qu'il va non seulement attraper tous les éléments qu'il va utiliser ensuite auprès des autres, mais c'est là aussi qu'il comprend certainement tout ce qu'il y a, tout le potentiel qu'il peut y avoir dans cette famille qui peut lui permettre de se faire un chemin et de l'embarquer.
Toujours pour en savoir plus sur cette rocambolesque histoire, j'ai rendez-vous avec Christine, la femme de Charles-Henri, l'un des frères de la famille Védrine. Aujourd'hui, elle vit avec son mari dans ce HLM de Bordeaux. Ce n'est plus la vie de château.
Christine.
Oui, bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va.
C'est une nouvelle vie quand même pour vous.
Oui, c'est une nouvelle vie, ça. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Mais de toute façon, d'abord, on n'a pas le choix. Et puis, on essaie de positiver.
Ma voiture est là-bas.
D'accord, très bien. Merci.
Christine est un témoin clé de cette affaire. C'est sans doute celle qui a le plus souffert de cette manipulation, physiquement. Elle m'emmène donc à Talade, près de Montflanquin, dans cette ancienne maison passée à la postérité, car c'est là que toute la famille a vécu plusieurs années recluse, coupée du monde extérieur. Cette maison appartient aujourd'hui à son beau-frère, Philippe de Védrine.
Est-ce qu'on peut déjà parler de séquestration dans cette maison ?
Un petit peu quand même, parce que si vous voulez, d'abord, tout le monde n'avait pas le droit de sortir. Thierry Tilly, au téléphone, donnait ses ordres. Donc il y avait des jours où on était interdit de sortir. Il y avait des jours où il fallait faire la politique de voler close. Ça peut être vécu par certains comme une séquestration.
Rentrons voir Philippe.
Il fait un peu froid, hein, quand même.
Oui, il fait un peu frais, là, à Talade. Il est là.
Bonjour Christine.
Bonjour Philippe.
Monsieur de Védrine, Philippe, donc.
Absolument, c'est
votre beau-frère.
Tout à fait,
oui,
tout à fait.
D'accord.
Absolument.
Félicitations pour cette jolie maison.
Merci.
Elle a été une prison, cette maison?
Non, non. Nous avons été prisonniers de nous-mêmes. C'est pire. Elle a été complètement barricadée, là vous ne voyez pas, mais il y avait des contre-volets, il y avait des caméras, et pendant années...
C'était devenu un véritable bunker ici.
Tout à fait.
En écoutant Philippe, l'aîné du clan Védrine, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment presque toute une famille de notables, instruite, a pu tomber sous la coupe d'un seul homme, Thierry Tilly, et ce pendant 10 ans. Quel est donc le pouvoir de cet homme? Quelle est sa force? J'ai rencontré la majorité des membres de cette famille afin que chacun, à leur tour, ils me racontent leur première rencontre avec Tilly.
Comment est-ce que vous décririez le sentiment qui tout de suite vous a envahi lorsque Tilly a commencé à travailler sur vous?
Alors, si vous voulez, dès le départ, il a été fortement, j'allais dire, recommandé par ma sœur. Me disant que c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, que je les connaissais bien, qu'il avait une culture militaire, qu'il avait pratiquement rang de général, que justement il s'occupait de la région Aquitaine, entre autres. Donc, moi, je n'avais aucune raison de ne pas le croire. D'autre part, quand on regarde le physique de Thierry Tilly, on se rend compte qu'il a effectivement un physique tout à fait anodin. Hein, et comme on m'avait encore laissé entendre qu'il faisait plus ou moins partie des services secrets, et je me suis même dit, celui-là, c'est vraiment un bon, c'est vrai.
Qui vous avait laissé entendre qu'il était agent secret?
Je crois que la première fois, c'est ma sœur.
Alors, vous êtes tombé tout de même sous l'emprise de ce caméléon et ce personnage que vous me décrivez sans réel charisme, finalement.
Sauf son regard. Alors, ce monsieur a un regard qui est très puissant, très fort,
Impressionnant ?
Je dirais quasiment hypnotique.
Et ma première rencontre avec Tilly, elle est très précise. C'est au cours d'un entretien téléphonique concernant un problème familial. Et en moins de 5 minutes, il a commencé à dire des choses très précises me concernant, sur le plan personnel, professionnel, les choses qui m'ont bluffé et qui m'ont fait effectivement adhérer en ce sens que ça correspondait au tableau qu'en avait fait ma sœur. Et ce personnage me paraissait assez exceptionnel et ça m'a déstabilisé. Ça a été la première accroche qui a été presque déterminante.
Moi, je n'ai jamais vraiment adhéré à ce monsieur. J'avais beaucoup de réticences. Mais très vite, de toute façon, il y a eu deux camps, les bons et les méchants. Les bons, c'était ceux qui restaient dans le groupe. Les autres étaient vraiment bannis. Et bêtement, parce que j'aurais beaucoup plus aidé ma famille, je suis restée dans le camp des bons.
Le camp des bons étant ceux qui adhéraient totalement aux idées de Thierry Tilly.
Les 11 personnes.
Les fameux 11.
Trois générations, ma belle-mère allant jusqu'à ma fille, qui à l'époque était mineure puisqu'elle avait 15 ans.
L'influence de Tilly sur les Védrines franchit un cap en 2000 lors du festival de musique annuel de Montflanquin. La famille l'a invité à dîner. Il ne va pas rater cette occasion pour faire impression et déployer tous ses talents de manipulateur.
Il fait autorité dans ses propos, il pérore, c'est lui qui tient un petit peu le centre de la conversation. Et puis voilà. Mais effectivement, ce soir-là, il a séduit, fasciné, je dirais même, un certain nombre de membres de ma belle famille.
De la grand-mère au plus jeune, Tilly charme tout le monde. Amaury est le fils de Christine. À l'époque, il n'a que 18 ans.
Avec mon cousin, on a joué au foot avec ce monsieur Tilly. Il jouait très mal au foot. Il jouait très très mal au foot et j'avais un peu de peine pour lui en fait, parce qu'il était vraiment gauche. Et mon cousin m'avait dit qu'en fait, il avait joué notamment un haut niveau au foot, c'est-à-dire qu'il avait joué avec José Touré, il était de la génération de Paul Le Guen et il avait fait des soi-disant sport-études.
Oui.
Et donc, il était censé jouer très bien au foot. Et donc, j'avais honnêtement de la peine pour lui. Et lui m'a dit qu'en fait, il s'était fait tabasser et qu'il avait notamment dû réapprendre à écrire. Et c'était notamment pour ça qu'il était gauche. Et quand mon cousin m'a dit ça, j'ai eu de l'empathie, énormément d'empathie pour lui. Et je me suis dit, finalement, c'est quelqu'un qui a énormément de courage, qui a dû se reconstruire après des choses horribles. Et j'ai eu de la sympathie pour lui. Mmh. Donc ça, c'était la première fois, le premier contact que j'ai eu avec lui. Et un truc qui m'a frappé, en fait, c'était qu'ils avaient un petit chien. Il était venu avec sa femme et sa petite fille de 1 ou 2 ans et un petit chien. Moi, j'ai toujours été élevé avec des chiens. J'adore les chiens, j'ai une grande affection pour eux. Et en fait, ce chien, il avait une particularité, c'est qu'il était hyper sage et d'une obéissance hors norme. Et en fait, je me suis dit inconsciemment que cette éducation avait été faite par quelqu'un d'hors norme. Oui. Mais à l'époque, c'était juste, ça a été une perception.
Oui, une perception.
Une perception instantanée.
Ça n'a pas été un raisonnement aussi qui allait aussi loin à l'époque.
Mais en fait, finalement, si, parce que ça donnait de la cohérence en fait au fait que ce monsieur Tilly était hors norme, qu'il appartenait à l'élite, qu'il avait vraiment un savoir-faire que moi je ne connaissais pas.
Mm-hmm. Et peut-être que vous enviez même.
C'était pas de l'envie, c'était de la fascination.
En cet été 2000, Tilly marque donc des points en fascinant une grande partie de la famille. Son emprise commence à prendre forme. Il a réussi, en un peu plus d'un an et demi, à convaincre 11 membres de la famille, avec des arguments différents, de venir s'installer au château familial. Son objectif est clair, isoler ses victimes pour mieux les contrôler, les couper du monde et de ceux qui pourraient tenter de leur ouvrir les yeux. Une démarche très classique de la part des manipulateurs mentaux, selon Maître Picotin, l'avocat de la famille spécialisé dans les sectes et les affaires de manipulation mentale. C'est comme si Tilly était entré dans les cerveaux de ses clients à leur insu.
Il scanne vos forces et vos faiblesses. Une fois qu'il a vu en vous le manipulateur préjudiciable, il va ensuite vous manipuler pour prendre votre contrôle de votre cerveau. C'est un véritable hold-up du cerveau, ni plus ni moins. Et ça, c'est effrayant. On est étonné qu'une famille, je dirais, qui était quand même, qui tenait, qui était dans le haut du pavé bordelais, si je puis dire, hein, de par la qualité des personnes, de par leur fortune, de par leur histoire familiale, ait pu être accrochée. Mais en réalité, c'est ne pas comprendre ce que c'est justement que l'emprise mentale. Peu importe, on peut être énarque, sans doute, on peut avoir n'importe quel niveau intellectuel et se faire avoir.
Vous vous trouvez en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors que lui, il vous connaît parfaitement, et ici, sur quelle ficelle il faudra tirer le moment venu.
Je n'étais pas habituée aux mensonges, je n'étais pas du tout préparée. Et vous savez, la manipulation, c'est quelque chose qui arrive petit à petit. On ne s'en rend pas compte, et quand on s'en rend compte, en fait, c'est trop tard.
Il utilise vos mots, il utilise votre façon d'être, et ça, on ne le voit pas. On ne voit pas comment ça se passe.
Votre façon de penser aussi.
De penser, oui, complètement.
C'est un travail cousu main de dentelle psychologique. Et il a utilisé pour chacun, à chaque génération, pour celui qui a 60 ans, celui qui en a 30, celui qui en a 25, il a utilisé pour chacun les mots. Si vous êtes un caméléon, il a une empathie considérable avec l'interlocuteur qu'il a en face. Une fois, de toute façon, qu'il a anesthésié votre sens critique, si vous voulez, il peut faire avaler n'importe quoi.
On a tout de suite intégré le fait qu'il faisait partie de services secrets.
Oui.
On croyait en avoir la preuve au quotidien. Et à ce titre-là, il nous avait persuadé du fait qu'on était sur écoute et que tous nos faits et gestes étaient
surveillés,
analysés, pour voir si on avait la valeur intrinsèque pour, à terme, intégrer des services d'élite et avoir des responsabilités. Donc il fallait vraiment qu'on montre patte blanche. Donc après, chacun à son niveau s'est projeté dans cette possibilité-là et s'est conditionné pour justement obéir.
Cette promesse d'intégrer les services, c'était destiné à la jeune génération,
exactement,
ça.
Exactement. Et en fait, les parents le savaient et ils étaient très heureux et fiers de ce, parce que eux, ils considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens de nous offrir ces opportunités-là. Donc pour nous, c'était une aubaine, et pour nos parents, c'était une aubaine de pouvoir justement accéder à cette élite.
Tilly use de toutes les ficelles et techniques du manipulateur type, comme celle de la paranoïa. Après avoir contrôlé les esprits de la famille, il nourrit la théorie du complot. Le monde entier en voudrait aux Védrines et les persécute. Son but, apparaître encore et toujours comme leur seul et unique recours.
Très vite, Tilly va commencer à parler de danger.
Oui.
Qui menace votre famille, qui vous menace vous-même.
Tout à fait.
Et vous adhérez aussi à cette idée.
Oui, parce que il a joué vraisemblablement sur toutes ces vieilles histoires que mon père nous avait racontées, que quand il était prisonnier en Allemagne, il y a quelqu'un qui lui en voulait très fortement. Hein, et cette histoire de complot ne m'a pas paru étrange.
On a eu à peu près 5 vols de voitures. Ma propre voiture que j'avais laissée en révision, la voiture brûle sur l'autoroute au péage Marmande quand même. Bon, c'est quand même des faits quand même qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, alors vous voyez, ça a l'air de rien, mais ce sont ça plus ça plus ça. Cela donne corps au fait que la famille est attaquée.
La stratégie de Tilly est payante. La théorie du complot fait éclater la famille. Elle va se scinder en 2 clans, ceux qui sont sous emprise et donc au service de Tilly, et ceux qui résistent. Parmi eux, certains ne l'ont jamais rencontré. Les 4 enfants de Philippe sont toujours restés hermétiques à son discours. Ils ont progressivement perdu tout contact avec leur père et ne croient pas aux élucubrations de Tilly. Et cette inquiétude prend forme chez Laurence, l'aînée, lors d'un repas chez elle, après qu'elle ait entendu une discussion entre l'une de ses tantes et sa sœur Lucille.
Et au cours de la conversation, elle parle de ce fameux Thierry Tilly qu'elle a rencontré et qui est, paraît-il, gémologue et connaît des grands joailliers. Et c'est là que ma sœur tilte en disant « Mais attends, moi Thierry Tilly, je l'ai rencontré à un dîner et il était agent secret. » Donc là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Mm-hmm. Le gars, il est gémologue d'un côté, agent secret de l'autre. Bon, donc on a fait des recherches. Et il se trouve que ce monsieur avait déjà un casier, enfin, il avait déjà un pédigré, notamment auprès des renseignements généraux.
C'est-à-dire un pédigré d'escroc.
Oui.
D'accord, clairement.
Clairement. Donc, à ce moment-là, mon frère essaye de rentrer en contact avec papa, avec Charles-Henri qui est son parrain, en leur disant « Méfiez-vous, ce gars-là...
» Ça va pas.
Ça va pas du tout, quoi. Et il leur a dit
comment
que...
Comment il a reçu Étienne, alors ?
Très mal. Très mal. Quand il dit, il a prononcé le mot Thierry Tilly, en face, ça a eu l'effet d'une bombe. Et il ne fallait pas le critiquer. C'était quelqu'un de formidable. Et mon frère a fini par leur dire, écoutez, moi ce gars-là, je ne le connais pas. Il est peut-être fort sympathique, mais je vous en prie, ne faites pas d'affaires avec lui. Il a liquidé 10 sociétés.
Et je lui ai répondu avec une naïveté affolante. Je lui ai dit, mais écoute, si tout ce que tu me dis est vrai, il devrait être en prison.
Bien sûr. Mais tout cela était vrai pour toi.
Mais bien sûr. Ouais. Mais pourquoi pour moi, on était déjà pris, si vous voulez, dans le système. Je n'avais aucune raison de douter de quoi que ce soit.
En excellent manipulateur qu'il est, Tilly ne peut supporter parmi ses victimes de brebis galeuses qui n'adhèrent pas à ses affabulations. Le premier à en faire les frais est Jean Marchand, le mari de Guylaine. Dès le début de l'affaire, en septembre 2001, il est éjecté du groupe Manu Militari.
Mon épouse, je l'attends ce vendredi après-midi, mais ça n'est pas elle seule que je vois arriver sur le coup de 15h. C'est elle, plus ses deux frères. Ils entrent dans la maison, Tilly n'est pas là et ne sera jamais là.
Jamais là.
L'emprise est tellement forte, la manipulation mentale est tellement aboutie qu'il n'a plus besoin d'être là. Je vois donc débarquer, sortir de leur voiture, ma femme et mes deux beaux-frères. Ils entrent dans la maison et là, Guylaine... Très étrange, ses deux frères, méconnaissables, fermés, durs, les bras croisés, en costume, alors que nous sommes à la campagne, l'entourent. Elle me jette au pied un bouquet de fleurs séchées et un gant de jardin, avec des mots que je n'oublierai jamais. « Voici les signes maléfiques de ton réseau, que j'ai trouvé dans notre jardin de Fontenay-sous-Bois. Tu as une demi-heure pour faire tes bagages et quitter cette maison. »
C'est à partir de là que les choses ont pris une autre dimension. C'est-à-dire que Jean Marchand donc, est sorti, a mis un mois à nous contacter, parce que, bon, peu importe, il a mis un mois à nous contacter, j'imagine qu'il devait être assez secoué,
ouais.
À nous raconter ça, et on était tous horrifiés. Et toutes ces petites choses pour lesquelles on se disait, oh ben, il change de vie, c'est pas si grave, d'un seul coup, il y a eu un autre éclairage.
Ouais, ça prend une autre dimension, là.
Voilà, et là, on s'est dit, mon Dieu, mais dans quoi on est tombé, quoi. Mm-hmm. Et là, effectivement, on se dit, il faut absolument intervenir. Et donc, effectivement, on se tourne vers les autorités, on commence par les gendarmes de Montflanquin, et là, on commence, première fois qu'on nous dit, ce sont des gens majeurs, ils font ce qu'ils veulent, oui, mais vous comprenez, c'est pas normal, papa ne veut plus nous recevoir, mais c'est bien son droit, c'est sa maison. Si votre père n'a pas envie de vous voir,
il a le droit. Dans ces cas-là, dans quel état d'esprit on se retrouve là
ben, c'est l'horreur. Alors après ça, quand on a épuisé toutes les solutions, j'y dirais, en adéquation avec la loi, on peut tomber dans. Et on nous l'a proposé. On monte un commando avec des gros bras, on va casser
on va
la gueule à tout le monde,
ouais.
on défonce la porte, on leur ouvre les yeux, etc. Ouais. Et là, je dois dire que on l'a
Vous
pas fait.
Vous avez dû être tenté par cette solution.
On y a pensé, bah, c'est évident, on y a pensé. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait pourquoi ? Parce que on se met hors la loi. Il n'était pas question de se mettre hors la loi. Le seul angle d'attaque possible, c'est l'angle financier. Et la brigade financière s'est mise à pister l'argent. À se rendre compte que tout ça, ça partait à l'étranger. Alors, de mémoire, Belgique, Luxembourg...
Le circuit traditionnel du...
Et plus loin, il me semble qu'on avait identifié...
Perdre tout ça dans un brouillard.
De mémoire, il me semble qu'on avait identifié un compte aussi aux îles Caïmans.
Cet argent provient principalement de la vente d'un appartement dont Christine avait hérité, ainsi que de la maison du couple à Bordeaux. Thierry Tilly avait été désigné à sa demande comme gestionnaire du patrimoine de la famille. Il les avait donc convaincus de vendre les maisons pour placer l'argent en lieu sûr. Pour prouver sa bonne foi, à la manière de l'escroc Madoff, Tilly redistribuait une partie de l'argent de la vente pour donner l'impression que ses placements rapportaient beaucoup. Il interdit aussi aux membres de la famille de déclarer leurs revenus aux impôts, ce qu'ils font sans poser de questions. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Les huissiers débarquent avec les déménageurs au château de Montflanquin.
Vous êtes sur le perron avec votre sac.
Oui.
Et vous paraissez complètement absente.
Oui.
Est-ce que... Je ne me trompe pas, vous étiez absente.
Complètement absente. Et qu'en plus, Tilly m'avait dit surtout, tu ne t'inquiète pas, tu ne t'énerve pas.
Ouais.
Ils ne font que partir et ils vont revenir dans 3 jours.
Ils vont venir dans 3 jours.
Les meubles.
Ouais. Cet état-là, vous paraissez totalement ailleurs.
C'est l'état dans lequel on a été pendant 8 ans et demi.
Cet état, il est le même pour vous tous. Hein.
Bah oui. On est anesthésié, on est complètement mis en hibernation totale. Je n'étais plus moi-même.
Le château familial est donc entièrement vidé de ses meubles. Et c'est pourquoi Tilly envoie tout le groupe s'installer à Talade, la fameuse maison de Philippe où nous sommes actuellement. Pour tous, il s'agit bien évidemment d'une solution provisoire, mais qui va en fait durer 3 années. C'est ici que l'expression « reclus de Montflanquin » prend tout son sens. Leur paranoïa, alimentée par Tilly, atteint là son comble.
À Talade, nous étions véritablement des reclus, à tel point que même les voisins, qui sont des gens adorables, on ne les voyait pas.
Et vous ne leur parliez plus ?
Et on ne leur parlait plus. Non, et je peux même vous dire qu'à certains moments, ils ont essayé de créer un lien en nous laissant des choses.
Il y avait un panier de légumes devant la porte
pour créer le lien, et qu'on n'a pas su l'interpréter, ce geste.
Vu de l'extérieur, on est devenu barjot, quoi.
Il y a des jours où il y a l'opération volet clos. C'est-à-dire que Thierry Tilly oblige à fermer tous les volets, on vit dans le noir, et même ça peut durer plusieurs jours, parce que soi-disant, il y a des journalistes qui vont venir, etc.
Quelle est l'ambiance entre vous ?
Lourde. Chacun trouve des dérivatifs quelque part, et Christine et moi, on vit un peu de notre côté. Il n'y a que les repas qui se passent ensemble. Ils sont souvent aussi parfois un peu tendus parce que c'est l'heure à laquelle que choisit Thierry Tilly pour communiquer par internet avec Guylaine, c'est pratiquement tous les jours. Et les jours où il n'y a pas Thierry Tilly au téléphone, elle est d'une humeur épouvantable qui rejaillit sur tout, et c'est normal, c'est voulu. Vous rajoutez là-dessus quelques séances de volets clos et vous voyez l'ambiance qu'il y a.
Thierry Tilly a déjà donc vendu plusieurs propriétés de la famille et détourné une bonne partie de l'argent de la vente. Mais il ne compte pas s'arrêter là. En ligne de mire, désormais, l'objectif, faire main basse sur le château de Montflanquin. Pour lui, cela ne peut réussir que s'il éloigne le groupe de son fief, le Lot-et-Garonne. Il monte alors un plan redoutable qui va s'étaler sur plus de 3 ans, déplacer toute la famille en Angleterre, où il vit depuis 2001. Première étape, les enfants de la famille. En commençant par Amaury, fils de Christine et de Charles-Henri, qui rêve désormais de devenir agent secret. Mais Amaury connaît des difficultés scolaires et son addiction au cannabis inquiète énormément ses parents.
Guylaine nous dit, Thierry Tilly va vous aider à régler ce problème. Et c'est là où, en effet, il l'a réglé, parce que, il l'a coupé, ce qu'il faut toujours faire, il l'a coupé de son milieu amical. Et il est parti faire des études d'anglais à Oxford, à l'époque, là, dans une bonne école. Et c'est vrai qu'Amaury a cessé de fumer.
Ce n'est pas vous qui prenez cette décision, c'est Thierry Tilly qui la prend pour vous aider.
Voilà, non, il nous la propose
et on acquiesce.
Okay.
Alors qu'on aurait pu le faire de nous-mêmes.
Il marque des points là.
Complètement. Là, il nous ficelle, il nous enchaîne. Là.
Quand il m'a sorti de cet environnement-là, je me suis senti revivre. C'était pour moi une renaissance.
Il est en relation avec vous à Oxford ?
Oui, donc en fait, lui, il habite Londres. Et moi, je suis donc à Oxford. Et c'est lui qui me donne de l'argent pour subvenir à mes besoins quotidiens. Il me donne un ordinateur portable.
Ouais.
Donc pour moi, c'est les premiers pas d'une formation pour justement comprendre et intégrer ses services. Il me dit, ça c'est un outil de travail et t'en as besoin. Pour ce que je veux te faire, t'en as besoin.
À Oxford, Amaury est persuadé que Tilly joue les mentors pour l'aider à devenir agent secret d'élite. En fait, le manipulateur continue d'exercer sur lui une pression permanente.
Je suis en Angleterre, dans une école d'anglais, et sur Internet, j'avais rencontré sur un chat une fille. Et j'en ai parlé à Thierry Tilly. Et Thierry Tilly m'a dit, fais attention Amaury, c'est pas elle qui te parle. Peu de temps après, je suis allé à Londres le voir pour qu'il me donne de l'argent et qu'on débriefe un peu sur les choses. Et alors là, il a mis en scène quelque chose d'hallucinant, c'est qu'il m'a reçu dans un café avec plein de photos, des photos de sa famille de Noël. Et donc il y avait un amas de photos comme ça, il y avait des photos plus ou moins déchirées, Il m'a dit, tiens, c'est de ta faute, si j'ai reçu ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu communiques avec cette fille sur Internet, ouais. Et moi, j'ai des répercussions sur ma vie privée.
Ouais. En gros, il vous a fait comprendre que en communiquant et en vous faisant repérer par le réseau maléfique,
voilà.
Ils avaient réussi à le repérer, lui.
Exactement, et qu'il faisait des menaces.
D'accord.
Et donc, il fallait vraiment que je sois en ordre de bataille et que je sois obéissant et que j'arrête de faire des écarts parce que ça me faisait plaisir, quoi.
Il fallait que je sois obéissant.
Ouais.
Dans la foulée d'Amaury, toute la famille progressivement vient s'installer en Angleterre. Là, Thierry Tilly va encore accentuer son emprise sur le groupe en inventant une histoire invraisemblable. Christine détiendrait un secret ancestral datant des rois de France. Il aurait été transmis à la famille de Christine, désignée comme une famille d'élite, donc digne de connaître ce secret des initiés. Il s'agirait d'un trésor caché et destiné à aider les générations futures.
C'est là où il va utiliser Jean-Henri pour me convaincre, c'est-à-dire que à moi, il dit, je vais envoyer Jean-Henri à Paris et vous allez voir, ça va être formidable pour lui parce qu'il va découvrir mes services. Et à Jean-Henri, il dit...
Je vais vous faire visiter les choses, il me dit.
Ah oui, donc tu parles, alors vas-y.
Et puis, bien sûr, on n'a pas le temps de visiter les services parce qu'on fait tout un tas de machins qui nous retardent dans nos allées et venues pour des questions de sécurité, pour bien nous crever, ouais. Et nous désorienter.
Parce
nous
que vous êtes suivi.
Parce qu'on est suivi, bien sûr. Oui, on est suivi, on est sur écoute, il y a des drones, il y a tout.
Donc en fait, et donc,
je ne vais pas visiter. Il me dit, mais au retour, vous dites à Christine que vous avez tout vu, parce que c'est important.
Donc que cette transmission
voilà,
existe
et c'est
vraiment.
C'est important de lui dire ça pour l'aider à retrouver sa mémoire.
Cela veut dire que quand vous rentrez en Angleterre...
Je mens à Christine.
Vous mentez à Christine.
Et là, à ce moment-là, ce n'est plus Thierry Tilly que je crois,
voilà.
C'est Charles-Henri en qui j'ai toute confiance. Donc Thierry Tilly m'envoie dans ma chambre, dans notre chambre, dans la maison d'en face, petite chambre de 9 mètres carrés. Je n'ai le droit de descendre que pour, à l'époque, aller aux toilettes et prendre une douche. Et je dois réfléchir et je dois absolument retrouver cette transmission. Il me fait travailler. Pour lui, travailler, c'était écrire, me motiver.
Je dois
trouver cette transmission et en plus, ce qui est épouvantable, c'est qu'il me dit si vous ne trouvez pas cette transmission, vous mettez la vie de votre fils aîné Guillaume en danger. Et là, tous les jours, il me dit vous êtes une mauvaise mère parce que à cause de vous, votre fils va mourir. Donc pour moi, c'est épouvantable. Et ça va quand même durer de fin novembre au printemps. Moi, j'ai perdu la notion du temps, mais je sais que c'est le printemps parce que quand je sors, il y a des fleurs dans les jardins. Et là, un jour, je sors sur le pas de ma porte. Et comme il est chez notre voisin où il y a des caméras sur le trottoir d'en face, il arrive comme un furieux et il me dit « Christine, vous rentrez immédiatement, vous mettez la vie de tout le monde en danger. »
À cette époque, la manipulation de Thierry Tilly tourne à la torture mentale, presque physique. Pour faire craquer Christine, qui selon lui refuse de révéler son secret, il la séquestre avec les autres membres de la famille pendant 15 jours, dans un sous-sol, avec pour unique nourriture du thé et des biscuits.
Il va nous faire descendre dans une pièce, une petite pièce, donc les adultes, c'est-à-dire Philippe, Guylaine, Charles-Henri et moi. Et là, il va me mettre en accusation et il va même finir après des menaces très violentes, des coups aussi, des coups, il va me frapper. Et c'est vrai que là où j'ai vraiment été réduite en sous-homme, c'est que c'est là où Machiavel, c'est qu'il me fait asseoir sur un tabouret, mais contre le mur, je dois regarder le mur car je ne suis pas digne de regarder ma famille. Mmh. Je n'ai pas le droit non plus d'aller aux toilettes. Donc très vite, moi, je vais m'arrêter de m'alimenter. Et même, j'ai décidé, là, de refuser toute alimentation. Car je vois, là, j'en ai vraiment assez et je décide d'en finir, en fait. Et je leur dis, de toute façon, maintenant, c'est fini, je ne mangerai plus.
Moi, j'ai pour mission d'empêcher Christine de dormir. Et alors, moi, je luttais pour ne pas dormir. Et puis après, vous êtes complètement détemporalisé. Vous savez plus si c'est le jour, si c'est la nuit, quelle heure il est, machin. Vous savez même plus si vous avez faim ou pas, vous n'êtes pas lavé.
Et c'est à ce moment-là qu'il en profite pour envoyer Charles-Henri et mes enfants signer des papiers pour Martel, pour la vente de cette maison familiale. Donc en fait, il a organisé cette séquestration pour vendre ce bien.
La famille ne le comprend pas encore, mais Tilly vient de réussir son plan. Le château familial va pouvoir être vendu malgré eux. Mais Tilly est peut-être allé trop loin. Au bout de 15 jours, le calvaire de Christine prend fin car Philippe se rebelle contre le manipulateur.
Je lui ai dit de ne plus utiliser des méthodes nazies. Moi, je ne m'associais pas à ce genre de choses. Hein, parce qu'il était arrivé derrière Christine, il l'a plus ou moins frappé en lui parlant comme un adjudant instructeur de chez les Marines. Voilà, j'ai été choqué de cette violence de Tilly. Et ensuite, faisant semblant d'appeler son patron au téléphone, alors que le téléphone n'était pas allumé, moi je m'en suis rendu compte, hein, faisant semblant de vomir quand Christine disait quelque chose. Mais c'était tellement mal fait qu'on voyait bien que c'était... Et là j'ai commencé...
Vous décrivez le comportement d'un fou, là.
Oui. Mais c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu.
Et vous continuez à croire ou là, ça
Ah non, c'est fini, moi. Là, c'est fini. C'est là où je me suis rendu compte que son regard n'avait plus aucune influence sur moi. Moi, ce jour-là, je suis sorti de l'influence de Thierry. Et finalement, il se débarrasse de moi. Hein, comme il s'était débarrassé de Jean Marchand avant. Hein.
Philippe est donc renvoyé en France en état de choc, très affecté par cette paranoïa créée de toutes pièces par Tilly. Il mettra un an avant de refaire surface, malgré l'aide de ses enfants. Lorsqu'il réalise et conçoit enfin qu'il est une victime de Tilly, il porte plainte. À peu près au même moment, en Angleterre, Christine va déclencher la chute du manipulateur.
Thierry Tilly va quand même commettre une erreur. C'est celle de vous faire retravailler.
Oui, c'est-à-dire que là, il y a certainement besoin d'argent. Donc, il me présente à un Français qui s'appelle Robert Pouget de Saint-Victor, qui va m'embaucher à l'essai. Et là, ça a été ma chance parce qu'il y a eu une amitié qui entre ce monsieur et moi.
Qui s'est créée.
Thierry Tilly avait fait une seconde erreur. Il était allé le voir pour lui proposer des placements mirobolants.
Ouais.
Et Bobigne, en revenant, m'avait dit « Mais vous connaissez un dénommé Thierry Tilly ? Mais bon, c'est un escroc. Bon. » Et là, une dixième de seconde, je me suis dit « Je parle pas. » Et pof, j'ai tout lâché.
Tout ?
Tout.
Le nouvel ami de Christine n'en revient pas. Il la convainc de fuir Thierry Tilly à tout prix et de rentrer en France porter plainte. Christine décide donc de partir malgré Charles-Henri qui, lui, n'a pas eu le déclic et se sent abandonné et trahi.
Je ne comprends strictement rien.
Mais quand vous dites vous ne comprenez rien, c'est-à-dire que...
Mais c'est-à-dire que...
Vous subissez ça comme une trahison ?
Ah oui, complètement. Et pour moi... Je dis, mais attends, comment ça se fait que Christine, compte tenu des relations que l'on a, puisse me laisser tomber comme une vieille chaussette, comme ça, sans rien dire? C'est impensable.
Mon but, c'est de faire arrêter Thierry Tilly. Donc, je rentre à Bordeaux le 20... Enfin, très vite, et je porte plainte avec Maître Picotin. Le 27, je suis dans le bureau du juge d'instruction. Je porte plainte, et là,
le
vraiment...
Le juge d'instruction qui vous suit.
Ah ben,
parce que c'était ça, oui, aussi, ça n'était formidable. Pas évident.
Là, je dois remercier vraiment la justice bordelaise, qui a été formidable, car vraiment, ce monsieur m'a cru tout de suite.
Tilly est mis
et alors là,
sur écoute.
Voilà.
Mais cette mise sur écoute, elle participe surtout à une chose primordiale, c'est son arrestation.
Voilà, il est arrêté en octobre, je crois.
Et il arrive à Bordeaux.
Et il est incarcéré.
Même si Tilly est derrière les barreaux, les membres de la famille restés à Oxford ne comprennent toujours pas la situation. À l'époque, une journaliste avait même tenté de les faire réagir, mais sans succès.
Et son arrestation, vous en dites quoi, vous, à Monsieur Tilly ?
Qu'elle est profondément injuste.
Qu'elle est profondément injuste.
Profondément injuste et qu'on est incarcéré, un homme honnête. Et que les malhonnêtes sont encore en train de courir.
Nous, on apprend que Tilly est arrêté et on pense que c'est stratégique de sa part.
En France, Christine s'active avec Maître Picotin pour préparer la sortie des 8 derniers membres de la famille restés en Angleterre. C'est une stratégie minutieuse et très précise qui se met alors en place.
Les gens, ils sont verrouillés, si vous voulez. Et il faut, en psychanalyse, en psychologie, il faut trouver la bonne clé pour la bonne serrure. La serrure de la prison mentale est la clé pour permettre de libérer les gens. Voilà ce que l'on recherche.
Comment cela s'est-il passé, cette exfiltration ?
Eh bien simplement, c'était notamment en novembre 2009, lorsque Christine a abordé son fils aîné, elle a eu les mots justes, elle était aidée en cela par les psys, et en quelques minutes, je vous dirais, eh bien, elle a réussi à ouvrir les yeux de son fils. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, on crée le déclic.
Bon, il a fallu du temps, certainement, puisque je crois que ça a duré presque une bonne partie de la journée, mais par exemple, pour Charles-Henri, le déclic s'est fait immédiatement. On lui a expliqué, il a tout de suite compris. On lui a demandé, voulez-vous voir votre femme ? Il a dit, mais bien évidemment.
Moi, je suis celui qui, vraisemblablement, est sorti le plus facilement de l'emprise à partir du jour où on m'a dit c'est un escroc, voilà la vérité des choses. J'attendais une issue positive ou enfin une issue de cette histoire. Et là, même le fait que ce soit un escroc, c'était un point final à l'histoire. Par contre, je ne prends pas conscience que je suis ruiné. Je mets plus de temps à ça. Et on me demande, est-ce que vous voulez retrouver votre femme ? Bien sûr. Mais on sort de là cassé. Aujourd'hui, ça va mieux, mais le ressort est toujours un peu détendu. Et on m'a dit qu'il faudrait à peu près 6 mois avant que je réémerge. J'ai eu besoin de plus d'un an.
Thierry Tilly a été condamné à 10 ans de réclusion. Mais pour la famille Védrine, et Amaury en particulier, rien ne pourra jamais effacer ces 10 années sacrifiées et ce patrimoine perdu.
Il a pris 10 ans de vie pour 11 personnes. Il nous a détruits, il nous a ruinés. Il y a 3 millions d'euros qui sont pas tracés par la police judiciaire française. C'est n'importe quoi. C'est comme dans les films américains. Le mauvais, il va vivre sa vie, puis il va avoir niqué tout le monde. Et puis bien, quoi. Pendant 2 semaines dans le procès, c'était que du mensonge. Et on peut rien faire contre le mensonge.
Quand il aura fini sa peine, que va-t-il faire ?
À votre avis ?
Il va continuer. Il sait faire que ça. Mais je le pense vraiment.
Tout individu qui est devant lui, il le manipule. On l'a changé régulièrement de prison parce qu'il manipulait tout le monde. C'est sa
détenu,
nature.
Détenu, surveillant.
Toute personne.
Aujourd'hui, la famille Védrine a perdu la plupart de ses biens. Maisons, meubles, mais aussi toutes les petites choses du quotidien. Les dessins, les photos. Car tout ce qui n'était pas vendable a été brûlé par Tilly. Je me demande comment on se relève d'une histoire pareille.
Je pense à beaucoup de gâchis, un sentiment d'échec énorme vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Pour moi, c'est l'échec total. Alors, il y a 2 solutions. Ou je m'enferme dans mon échec et je pleure, ou je regarde dehors, demain, et compte tenu de toutes les mains tendues que nous avons, je ne peux que regarder demain.
Est-ce que vous en voulez à vos parents, parfois ?
Je leur en veux, mais... Mon honnêteté intellectuelle m'oblige à accepter le fait qu'il n'y a qu'un coupable, c'est Thierry Tilly.
Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser alors, après avoir vécu tout ça ?
Ben, du bonheur.
Du bonheur ?
Ouais. Une fille bien, d'être heureux, quoi. De pouvoir vivre. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas vécu, quoi. Ma vie, elle n'est pas derrière moi, c'est stupide de dire ça, mais je sais même pas si j'ai trop la force d'affronter les choses. Moi, je me suis fait chier pour rien, quoi. Ça me fait chier de me refaire chier, alors qu'en fait, c'est la vie, quoi. Heureusement, voilà, c'est fini, la vie reprend son droit, la vie est belle, mais bon, ça se construit, quoi. C'est hyper lent, il faut tout reconstruire. Les amis, il faut, même si les gens sont hyper gentils et tout ça, ça se reconstruit, quoi. Et ça prend du temps, quoi. Et le temps, moi, j'en veux plus. Moi, je suis impatient, j'en ai marre, quoi. J'aimerais que ça se passe bien et simplement, et... Moi, j'ai besoin d'amour, mais... Et c'est ça qui construit, quoi, et qui permet de résister, quoi, vraiment. Parce qu'autrement, aucun intérêt. C'est aucun intérêt, la vie, elle est... insipide.
Bon, en tout cas, l'appel est lancé.
J'ai senti chez cette famille une envie de revivre bien légitime. L'envie aussi d'oublier cet interminable calvaire, cette insoutenable soumission.
Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.